Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Métropolez-vous. Merci d'être fidèles chaque semaine à ce rendez-vous avec l'actualité de Toulouse Métropole. Nous allons aujourd'hui consacrer cette émission à un domaine d'activité encore mal connu du grand public et parfois même des entrepreneurs et des élus, celui de l'économie sociale et solidaire. L'ESS, comme on l'appelle par commodité, est un secteur en plein essor en France et dans notre région, entre autres dans la métropole toulousaine. Il séduit les jeunes, souvent pour des raisons éthiques, et de nombreuses entreprises. Des emplois s'y créent chaque année et des projets en tout genre y voient le jour. Mais de quoi parlons-nous précisément? Qu'est-ce donc que l'économie sociale et solidaire? Et comment se développe-t-elle sur notre territoire? C'est ce que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui au cours de ce numéro où nous allons faire le panorama de l'ESS dans la métropole toulousaine. Pour parler de ce sujet, je reçois une élue toulousaine et métropolitaine qu'il connaît très bien et qui en a la délégation à la mairie de Toulouse et à Toulouse Métropole, Nicole Miquel-Belot. Bonjour madame et merci d'avoir accepté une nouvelle fois mon invitation à vous exprimer au micro de Radio Présence.
Bonjour monsieur, c'est toujours avec un très très grand plaisir qu'on fait un point régulier sur l'économie sociale et solidaire, d'autant plus que, en effet, je le connais bien parce que j'en suis issue de façon totalement bénévole. Je suis la présidente fondatrice d'Envie, qui fait de la récupération d'électroménagers, télé, informatique, boulevard de Thibault, pour permettre à des personnes qui sont en difficulté parce que soit en ex-drogués, alcoolos, tolards, exclus du monde économique, on leur doit la possibilité de se remettre sur pied. Et c'est l'objectif d'Envie.
Voilà, ben on aborde déjà un petit peu notre sujet. Donc, vous êtes en charge de l'économie sociale et solidaire à la mairie de Toulouse et à Toulouse Métropole. Et vous êtes a priori très bien placé, on vient de comprendre pourquoi, pour préciser ce qu'on appelle économie sociale et solidaire. Est-ce qu'il en existe d'ailleurs une définition communément admise? Et quel type d'entreprise, de société trouve-t-on dans ce secteur?
Alors, il n'y a pas une seule définition, ça serait trop simple, il y en a plusieurs. Moi, la mienne, c'est celle qui est aujourd'hui, parce que vous verrez, je ferai un petit point rapide sur l'évolution. Aujourd'hui, moi, j'ai l'habitude de dire que c'est une économie comme une autre, mais qui replace l'homme au centre de sa réflexion. Et c'est ça qui est vraiment très important. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va travailler sur une finalité sociale, qu'on a une gouvernance démocratique, qu'on a une gestion responsable, et que quelque part, on est là pour créer de la valeur. Mais de la valeur de proximité, non délocalisable et qui implique les citoyens. C'est là où il y a une différence. Ben oui, mais économie sociale, ça vient d'où? Et solidaire, ça vient d'où? Et pourquoi vous concentrez plus maintenant sur le développement économique? Ben tout simplement parce que, en fait, l'économie sociale et solidaire, elle est née à la fin du 19e siècle, au moment où il y avait énormément de dégâts qui avaient été engendrés par la révolution industrielle ou par les nationalisations des moyens de production et qu'il fallait en effet avoir des statuts pour protéger les gens qui étaient impactés. Ça a été la naissance des coopératives, des mutuelles, etc., etc. Et puis dans les années 70, bah forcément, il y a eu une évolution. On était encore, c'était la fin, je dirais, de l'économie sociale, tout simplement parce qu'on était confronté cette fois-ci à un chômage de masse, à des exclusions et qu'il fallait donc essayer là aussi de commencer à réagir. Il y a eu le commerce équitable qui est né à ce moment-là. Mais on est arrivé à une définition beaucoup plus inclusive de l'économie sociale et solidaire en la rattachant cette fois-ci au principe de développement économique. Et c'est pour ça que pour moi, j'ai du mal à dire aujourd'hui que l'économie sociale et solidaire, c'est le bon mot. Pour moi, si j'ai à la définir, c'est entreprendre autrement ou entreprendre collectivement. Mais ce mot économie sociale et solidaire ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui parce qu'on nous associe immédiatement uniquement au social. Je l'ai vu dernièrement en contactant un grand groupe qui ne m'a présenté que des possibilités de travailler ensemble sur de l'économie sociale pure. Nous, on est sur de l'économie sociale et solidaire, entreprendre autrement dans le monde économique maintenant.
Qu'est-ce qui relève de l'économie sociale et solidaire en termes de statut juridique? Quel genre de statut va-t-on trouver? Alors, il y a de tout, bien sûr, mais il y en a un quand même qui se détache très nettement.
Alors, il y a de tout, puisqu'on peut le créer sur différents statuts juridiques. Ça peut être des coopératives, puisque c'est ce qui a commencé. Ça peut être des fondations, ça peut être des mutuelles. Ça peut être des sociétés commerciales aussi, bien sûr, en faisant attention d'avoir l'agrément ESUS après. Mais c'est principalement des associations. Les associations, elles représentent, alors que ça soit au niveau national, au de l'Occitanie ou de Toulouse Métropole, c'est plus de 85%.
Oui, autre question, est-ce qu'on y trouve tout type de secteur d'activité à l'intérieur.
Alors, c'est une des caractéristiques de l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas une filière, je dirais. On nous trouve partout. C'est un peu notre difficulté. C'est qu'en fait, vous avez la filière aéronautique, c'est simple. On voit combien ils sont, qu'est-ce qu'ils font, etc. Nous, on va se trouver à la silver economy, on va se trouver dans le développement durable, on va se retrouver dans l'économie circulaire, on va être dans tout ce qui est alimentaire, etc., etc. Donc en fait, on est présent partout. Moi, je dis c'est une force, mais en même temps, c'est une faiblesse en termes de visibilité.
Et d'identification.
Et c'est très compliqué d'arriver à montrer quel est le poids réel, en fait, de l'ensemble de l'économie sociale et solidaire sur un territoire.
Qui emploie l'économie sociale et solidaire? Est-ce qu'on y trouve vraiment tout type de salariés, jusqu'à l'ingénieur, le cadre?
Alors, il y a tout le monde, il y a de tout. D'abord parce que, comme je vous le disais, on est présent sur tellement de secteurs, c'est que vous allez intéresser peut-être un scientifique pour ce qui est l'économie circulaire, parce que là, il y a quand même des choses importantes à innover, ou au contraire, des paysans ou des gens qui sont intéressés par l'alimentaire sur cette partie-là, etc., etc. Maintenant, en termes de personnes qui viennent, ça peut être... On a beaucoup de jeunes qui sont intéressés. Moi, j'ai été prof à TBS pendant des années.
Toulouse Business School.
Voilà, pardon, Toulouse Business School. Et j'ai bien vu l'évolution avec beaucoup de jeunes qui disaient « Oui, mais nous, tout ce que vous nous apprenez, c'est super, mais on a envie de donner du sens à notre vie et on n'a pas envie d'aller comme vous chez L'Oréal. » Parce que je suis une ex de L'Oréal, donc c'était l'exemple qu'ils me disaient toujours. Et on a envie de faire autre chose. Et donc, à ce moment-là, l'économie sociale et solidaire répond. Et en plus, ce qui est intéressant dans l'économie sociale et solidaire, c'est qu'en général, on co-construit. Et on co-gère, ça veut dire qu'ils apprennent énormément parce que c'est ensemble qu'on va faire avancer le système ou le projet. Et puis de l'autre côté, on a des gens qui ont été des cadres supérieurs, qui ont passé énormément de temps dans des grands groupes et qui à un moment donné se disent vers la quarantaine, cinquantaine, « Ah non, mais moi j'en ai assez, j'ai pas envie de terminer ma vie de cette façon-là ». Après tout, il y a des entreprises à reprendre dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et à ce moment-là, je vais voir comment je peux faire pour apporter toutes
mon
mes compétences par rapport à l'économie sociale et solidaire et développer ce secteur d'activité.
Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, l'ESS, l'économie sociale et solidaire, en termes d'emplois en France, de nombre de sociétés, d'associations, et évidemment dans la métropole toulousaine en particulier?
Alors, je vais faire trois niveaux.
Tant
Au niveau français, on a 210 000 établissements employeurs et 2,8 millions de salariés.
C'est vraiment énorme. Hein.
C'est énorme. Ça s'est énormément développé ces derniers temps et plus que l'emploi privé. Occitanie, on est dans les mêmes rapports. On a 22 000 établissements employeurs et 246 000 salariés. Toulouse Métropole, 3 100 établissements employeurs et 40 000 salariés. Donc vous voyez des choses qui sont vraiment très importantes aujourd'hui sur le territoire. C'est pour ça d'ailleurs que un de nos challenges en ce moment, c'est de faire en sorte que tous ces acteurs de l'économie sociale et solidaire ne disparaissent pas à cause de la crise que nous vivons. La crise qui fait qu'on réduit considérablement les budgets des collectivités, mais pas que, et qui fait qu'inévitablement, bah, il y a un impact sur les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et donc nous, à Toulouse Métropole ou en Occitanie, on est là pour soutenir nos acteurs.
On va en parler bien sûr de cet aspect-là. Je revenais juste sur les chiffres que vous donniez. Donc ça se développe, ça continue à se développer. C'est un succès, si on peut dire, qui ne se dément pas depuis des années. Et j'imagine que parmi les emplois, les employés dont vous parliez, il y a énormément de jeunes.
Oui, il y a pas mal de jeunes.
C'est la pyramide des âges par rapport peut-être au privé.
Alors je ne l'ai pas, c'est
la
je dirais entre
est plus basse,
femmes, hommes, a priori, il y a plus de femmes. Parce que bah, on a l'économie sociale avec les infirmières, etc., qui sont bon, plus des emplois féminins. Donc, on a plus de femmes que d'hommes. Et je n'ai pas la pyramide des âges, honnêtement. Mais oui, il y a pas mal de jeunes. Ce qui est intéressant pour les jeunes, je vois ceux qu'on reçoit à longueur de journée, c'est qu'ils arrivent avec une idée ou un projet. Et on va essayer de faire de ça, de faire naître quelque chose. Ça, c'est vraiment exceptionnel quand vous réfléchissez. Le jeune, il arrive avec juste un soupçon d'idée et il va en faire son boulot.
Alors on en vient à la façon dont les collectivités peuvent soutenir ce secteur, les actions qu'elles peuvent mener pour cela. D'abord, est-ce qu'elles peuvent intervenir dans le capital social?
On peut prendre des parts dans le capital social et monter au capital social. Oui, c'est possible. Ce n'est pas très développé, mais c'est quelque chose qui est possible.
Et dans la commande publique, est-ce qu'on peut, entre guillemets, les prioriser, en tout cas plus se tourner vers ce secteur que vers d'autres?
Alors, c'est toujours pareil. C'est très compliqué à mettre en place parce que c'est vrai que la commande publique est très contrôlée. Mais on peut, on est en train de réfléchir avec un programme qui s'appelle le Spacer, qui permet justement de donner un peu plus de poids à la commande publique par rapport à des établissements ou des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Parce que tout seul, ils n'y arrivent pas à être présents sur la commande publique.
Ah, vous parliez de Spacer. Comment Toulouse Métropole soutient-elle ce secteur et par quelles actions aujourd'hui?
Alors, à aujourd'hui, on a, moi j'appelle ça des jambes, deux grandes jambes. D'un côté, on a le parcours entreprise de l'économie sociale et solidaire et de l'autre côté, on a l'animation. Sur le parcours entreprise ESS, la volonté qu'on a eue, c'est de répondre à tous les besoins que peut avoir un acteur qui se lance au niveau de l'économie sociale et solidaire selon la phase du cycle de vie dans lequel il est. Donc, vous allez avoir des outils qui répondent au moment où il se dit « tiens, j'ai une idée ». Est-ce que je peux aller plus loin ? Jusqu'à la phase de maturité où il est un peu perdu parce que il y a eu des évolutions dans l'environnement, il ne sait pas très bien comment arriver à réagir par rapport à ça.
Surtout que les normes évoluent très vite, notamment les normes environnementales, par exemple.
Pas que ça, mais moi je suis bien placée pour le dire avec la loi AGEC et ENVIE, la législation.
Oui.
La législation qui fiche en l'air toute une partie de l'économie sociale et solidaire et de l'IAE au niveau... Alors là, moi, il ne faut pas me lancer là-dessus. Donc, on va rester sur l'économie sociale et solidaire. Donc, on a quelque chose qui est assez exceptionnel, c'est l'incubateur d'innovation sociale qui s'appelle Première Brique, qui a été monté, coporté entre Toulouse Métropole, donc une collectivité, et France Active, donc du privé. Ça veut dire être capable de travailler en transparence totale entre du public
et du privé,
ce qui n'est pas évident.
Non.
En même temps, avec Première Brique, on est allé plus loin puisqu'on a Fabrique à initiative. C'est quoi la Fabrique à initiative ? C'est que vous pouvez très bien partir non pas d'une idée qui est apportée par un porteur de projet, mais d'un besoin non satisfait sur un territoire. Vous apercevez en discutant avec les maires de quartier, les associations, etc., que tout le monde vous dit « il y a un truc là qui ne fonctionne pas ». Et on va partir de ce besoin, étudier ce besoin au niveau de la Fabrique à initiative, et quand on l'aura validé, aller chercher un porteur de projet. Ça veut dire qu'on travaille à l'inverse. Puis le troisième niveau dans Première Brique, c'est aussi l'aide à l'implantation. Pourquoi ? Parce qu'on a des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont présents dans d'autres territoires et qui disent « nous, on aimerait bien être présents aussi en Occitanie ou à Toulouse Métropole, comment on fait ?» Et donc à ce moment-là, on a monté cette partie-là pour pouvoir les aider à s'implanter sur notre territoire. Ça, c'est, je dirais, la chose qui est vraiment l'outil qu'on a par rapport à l'émergence. Le deuxième outil qu'on a, c'est tout ce qui est la création avec le parcours adresse, qui est géré par le mouvement associatif. Là, on est un petit peu au-dessus, on va dire. On a déjà validé l'idée, on est en train de développer le projet. Et puis après, on a tout un ensemble de soutiens qu'on fait par rapport à accompagner, financer et héberger. Accompagner, ça veut dire qu'on va avoir, par exemple, tout le travail qu'on fait avec le DLA.
Qu'est-ce que c'est le DLA ?
Alors le DLA, c'est le développement d'accompagnement de l'économie sociale et solidaire. Développement local, et c'est l'équivalent, on va dire, d'adresse, mais on travaille différemment. Et alors à chaque fois, dans tous ces outils que je vous donne, on travaille avec des parties qui sont communes, qui permettent à chaque porteur de projet d'avoir le retour d'autres porteurs de projet qui sont sur d'autres secteurs, mais qui vont lui amener un regard extérieur. Et ça, honnêtement, pour les créateurs d'entreprises, c'est top. On a quelque chose qu'on a lancé il n'y a pas si longtemps que ça, qui est l'accélérateur d'impact. Pourquoi ? Comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, la loi, elle a bougé. Les concurrents, ils ne sont plus les mêmes. Comment on fait ? Plutôt que de les laisser fermer leur entreprise, on est là pour les aider à donner un coup de pied au fond de la piscine et de repartir comme si de rien n'était. Au niveau des financements, on est pour essayer de les aider à diversifier leurs ressources. Et donc là, on va les amener par rapport à France Active, par rapport à IES, par rapport à comment on utilise la finance sur Internet. Et on les aide à ce niveau-là. Héberger, quels espaces pour abriter vos activités ? Donc là, c'est du coworking. Là aussi, on est à les aider, notamment avec le lancement des lieux totems. Donc vous voyez que cette première partie, elle est vraiment très bien structurée. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'elle n'est pas figée. Le parcours entreprise ESS, il y a des nouveautés ou des suppressions.
Donc c'est évolutif.
C'est évolutif.
Chaque année, quasiment.
Selon ce qui se passe au niveau de l'environnement. Du style par rapport aux problèmes de Covid. On a lancé, par exemple, J'agis pour demain, qu'on a supprimé parce qu'on s'est rendu compte qu'une fois que le Covid était passé, on n'avait plus besoin de cet outil-là. Donc en fait, on est en réflexion permanente pour se dire, est-ce que je couvre bien tous les besoins sociaux, sociétaux, environnementaux, puisque nous, on est plutôt là-dessus, de notre territoire, ou est-ce qu'il faut que j'en rajoute, ou est-ce qu'il y en a qui sont devenus obsolètes, et j'essaye d'activer en permanence la réflexion à ce niveau-là. Donc ça, c'est relativement intéressant. Si vous voulez des chiffres sur des entreprises, des acteurs, pardon, je dis toujours entreprises, mais c'est des acteurs qu'on a accompagnés et financés par le parcours entreprise que je viens de vous développer, on a eu en 4 ans 1630 projets accompagnés et 440 qui ont été financés. Et ça, c'est pas négligeable, 13 000 emplois créés ou consolidés. Donc, un parcours entreprise qui sert et qui crée de l'emploi, comme je disais tout à l'heure, hein, qui a de l'emploi de proximité et non délocalisable. Et aujourd'hui, vous imaginez bien qu'avec tout ce qui nous arrive et tout ce qui va nous arriver avec le nouveau gouvernement, on risque encore d'avoir des...
C'est surtout le nouveau budget, en l'occurrence.
Voilà, le budget qui va encore amener des baisses. Et nous, ici, on veut absolument protéger tous ces acteurs et soutenir au maximum tous nos outils pour qu'on continue à créer de l'emploi et être présent sur nos territoires.
Alors, il y a autre chose qui existe, c'est le réseau Toulouse Métropole Impact. Ça, c'est quoi? C'est une animation ciblée, en fait.
C'est une animation ciblée. C'est issu d'un travail qu'on a fait pour avoir le label French Impact. On l'a eu en février 2020, si je me souviens bien. Et à partir de ce moment-là, il fallait qu'on ait un réseau constitué. Donc, plutôt que d'avoir des acteurs avec qui on travaillait, mais sans organisation, on a créé vraiment un système pour pouvoir avoir ce label qui était obligatoire. Il fallait être collectif et pouvoir le montrer. Donc, on a travaillé avec une vingtaine d'acteurs. Mais alors, ce qui est toujours intéressant chez nous, c'est que c'est public et privé. C'est-à-dire qu'on est tout le temps à vouloir travailler entre le public et le privé, chacun amenant ses compétences. Et donc, ça permet de développer des synergies beaucoup plus fortes entre nous. Donc, à partir de là, on a décidé de monter Toulouse Métropole Impact avec les 22, parce que maintenant on est 22, les 22 acteurs qui sont avec nous pour développer des synergies entre nous, pour essayer de trouver des idées de co-construire et puis pour faire de la visibilité sur l'économie sociale et solidaire. On fait des réunions régulières de Toulouse Métropole Impact et je pense qu'on a un réseau vraiment très positif.
Vous avez évoqué tout à l'heure les lieux totems. Qu'est-ce que sont ces lieux totems?
Alors les lieux totems, c'est tout bêtement des tiers-lieux. Mais la différence, c'est qu'on les a fait sur uniquement l'économie sociale et solidaire et qu'on en a quand même fait déjà 6. Et on en a quelques-uns en ce moment qui sont en attente, avec un objectif toujours pareil, faire connaître l'économie sociale et solidaire, faire travailler ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire par rapport à un positionnement, puisque chaque lieu totem a un positionnement bien précis, et voir, alors ça aussi c'est une spécificité qu'on a, c'est-à-dire que je vais parler de nos 6 lieux totems, même s'il y en a d'autres en attente, les 6 lieux totems, comme des lieux, des tiers-lieux, dans d'autres territoires, sont des tiers-lieux qui travaillent seuls. Ce qui est intéressant, ce n'est pas de les faire travailler seuls, c'est de les faire travailler ensemble, toujours pareil.
Dans un même lieu?
Non, ils sont tous dans des lieux différents. C'est-à-dire qu'ils travaillent chacun par rapport à un positionnement. Si je prends par exemple les imaginations fertiles, qui sont à Bellefontaine, ils sont en positionnement sur l'innovation sociale. Bon, ça a été créé par rapport à ça. Tous ceux qui sont là sont pour l'innovation sociale. Mais par contre, si vous prenez les Halles de la Cartoucherie, qui sont plus sur une palette plus large, on va dire, des activités, ils sont ailleurs, mais on va leur apprendre à travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on va faire à un moment donné des réunions ensemble pour voir...
Pour créer des connexions.
Voilà, parce que chacun peut avoir...
Et des synergies éventuellement.
Alors des synergies, mais surtout aussi amener une critique, parce que c'est bien beau, on est tous géniaux, on a fait plein de trucs super, mais à un moment donné, il faut aussi savoir se remettre en cause. Et des fois, d'avoir le regard de quelqu'un d'extérieur, je trouve que ça fait avancer les choses.
Et puis de comparer les meilleures, ce qu'on appelle les meilleures pratiques, peut-être.
Voilà, les meilleures pratiques, et puis le transfert d'expérience. Le transfert d'expérience, c'est toujours intéressant. Donc on a les imaginations fertiles à Bellefontaine, les Halles de la Cartoucherie, qui sont à la Cartoucherie, les Herbes Folles, qui sont, elles, sur l'économie circulaire, et qui sont à bonne foi. Le Rose Lab, qui est à Montaudran et qui est plus sur tout ce qui est le fer. Et puis, on a l'atelier des bricoleurs, qui est à la barrière de Paris et qui est sur le travail du bois. Donc, on appelle aussi les imbriqués. Donc, vous voyez, à chaque fois, des positionnements bien différents. On ne veut pas avoir plusieurs fois la même chose. On est présent, si vous avez bien fait attention à ce que j'ai dit, sur des QPV, quartier politique de la ville. Ça, c'est très important pour nous parce que ça permet de faire aussi des animations pour la population, les amener aussi à comprendre ce qui se passe et quelque chose de nouveau sur leur territoire qui fait vivre un petit peu la vie. J'ai vu que, par exemple, avec les imbriqués, il y a soudain pas mal d'habitants qui se disent bah, « Tiens, il y a du lien social qu'on va pouvoir créer là, on va pouvoir faire des événements à partir de ce lieu et puis d'amener des gens qu'on ne connaît pas finalement à venir. » Donc vous voyez, c'est vraiment très positif dans le résultat sur le territoire. Alors, on a été plus loin parce qu'on s'est dit, bon, bah, ça, c'est les lieux totems de l'ESS. On a une charte qu'on signe avec des critères, on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui, qui sont très précis pour pouvoir être labellisés lieux totems ou non. Puis, il y en a qui sont à la limite. C'est-à-dire, ils n'ont pas tous les éléments pour être un lieu totem, mais ils sont quand même dans l'économie sociale et solidaire. Et c'est intéressant aussi de pouvoir les intégrer dans notre réflexion. Donc, on a des lieux transitoires. Ça a été monté par l'agence Intercalaire. Vous savez qu'il y a l'idée de génie de récupérer des bâtiments industriels qui vont être détruits, mais dans les 2-3 ans qui viennent, et plutôt que de mettre des squatteurs dedans, ben on va y mettre des entreprises, on va y mettre des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui vont pouvoir développer leur idée et avancer dans leur création. Donc on en a deux, c'est le collectif Abal qui est à la Rainerie et la Bouillonnante qui est à Soupetard. Et puis on a encore ce qu'on appelle des escales. Alors là, c'est encore autre chose. Alors escales, parce que ESS, escales, ils sont au début. Mais ce sont quand même des acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc là aussi on va les animer, on ne va pas les laisser seuls, on va essayer de faire des synergies avec, bon, je ne vais pas tous les dire, il y a Toulouse Espace Couture, il y a les Halles de la Transition qui sont derrière Compense Cafarelli, Café Anco, etc., etc. Donc ça, c'est un peu la structure qu'on a fait. Et bien entendu, ceux qui sont en escale peuvent très bien un jour repasser par rapport à un lieu totem. Nous, on est pour le développement des lieux totems.
Vous avez évoqué les Halles de la Cartoucherie et il se trouve que bientôt va y avoir lieu un événement, le Festival Toulouse Nouvelle Mode, les 14 et 15 novembre. Et vous teniez à parler de cet événement parce qu'il a un lien avec l'économie sociale et solidaire. Et puis vous êtes un peu à l'origine aussi.
Oui, à l'origine. Et puis, comme toujours, c'est intéressant d'aller chercher des partenaires et des causes organisateurs. Et là, j'ai avec la chance d'avoir avec nous Recycloc qui avait fait un festival. Alors eux, ils étaient uniquement grand public il y a 2 ans à Montpellier. Et donc, on a décidé de travailler ensemble plutôt que d'être en opposition. Et on a monté l'année dernière Toulouse Nouvelle Mode, première édition qui s'était faite à l'Hôtel Dieu. Et pour la deuxième édition, ça sera pour la partie salon professionnel à la cabane le 14 novembre.
La cabane qui se trouve à la Cartoucherie, donc.
Qui se trouve, à la Cartoucherie. Et puis, dans les Halles de la Cartoucherie, le 15 novembre, tout le monde peut venir. C'est gratuit, c'est libre accès. Le 15 novembre, de 10h à 19h, avec un défilé qui a lieu à 15h, là aussi, tout le monde peut venir. Si on est trop nombreux, on sera obligé de bloquer, mais c'est ouvert à tout le monde.
Alors, pourquoi ça relève de l'économie sociale et solidaire, cet événement, puis ceux qu'on va y rencontrer, les professionnels qu'on va y rencontrer?
Mais parce qu'on est tous sur les mêmes valeurs dans l'économie sociale et solidaire, qui sont ces valeurs de pas laisser, alors là, c'est sur le côté écologique, de ne pas laisser notre terre complètement disparaître. On sait tous qu'aujourd'hui, le textile, c'est un des matériaux les plus polluants qui puissent exister. Notamment pour les cours d'eau, mais aussi pour la mer, parce que on a des Africains qui achètent des ballots de textiles en pensant qu'ils vont pouvoir les recycler. Malheureusement, à cause de la fast fashion, il y a 80% qui va à la poubelle, alors qu'avant, ils récupéraient 80%. Mais quand on dit 80% qui va à la poubelle, ça veut dire aller dans la mer. Et donc, en ce moment, la mer est en train d'être polluée à cause de ça. On est en train de mettre en cause toute l'économie africaine de ces femmes qui arrivaient à travailler avec le textile. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est contre la fast fashion. Il faut arriver à faire comprendre à tout le monde, quel que soit le public. Donc, nous, on a un grand public, un public de professionnels, mais aussi un public d'enfants dans les écoles où on va leur expliquer avec les professeurs et avec des banderoles qu'on a fait pourquoi, en effet, c'est difficile et qu'il faut lutter contre la fast fashion, mais aussi pour les étudiants. Parce que les étudiants et les jeunes, c'est eux qui vont acheter et je me mets à leur place. Ils n'ont pas l'argent pour acheter autre chose. Donc comment on peut les amener à se dire il y a d'autres solutions que de la fast fashion? Vous pouvez utiliser autre chose. Vous pouvez aussi, on va leur apprendre à réparer des vêtements. Puis personne ne sait faire ça aujourd'hui. Donc ça, c'est un peu notre objectif grand public. Donc on donne rendez-vous à tout le monde le 15 novembre à la Halle de la Cartoucherie.
Voilà, c'est de 10h à 19h à la Halle de la Cartoucherie. Et juste pour le programme de la journée, il y a un village des marques.
Il y a un village de marques où tout le monde peut aller se promener, regarder. Il y a des machines à coudre avec des gens
ateliers.
Il y a des ateliers avec des machines à coudre avec des gens qui seront là pour expliquer. Quand vous avez un petit trou sur votre jean, à la place de le jeter, on va vous expliquer comment le faire.
Et le puis raccommoder.
Une petite fleur très jolie et très mignonne. Il y a le défilé.
Défilé de mode, à 15h.
Un vrai défilé de mode. Et puis, sur la place qui est devant les Halles de la Cartoucherie, il y aura aussi plein de choses, notamment la possibilité justement pour les jeunes et les étudiants qui n'ont pas les vêtements professionnelle pour aller passer des examens, pour aller passer des entretiens, pour s'habiller correctement, entre guillemets. On récolte en ce moment tout un ensemble de vêtements qui seront offerts par les Toulousains et par les citoyens dans les maisons Toulouse Service. Et grâce à Toulouse Business School, ils vont aller les récupérer, les trier. Et ça sera disponible sur la place gratuitement pour tous les jeunes qui voudront venir s'habiller et récupérer des vêtements gratuitement.
Voilà, et pour ceux qui voudraient en savoir plus hein, sur ces deux journées du 14 et 15 novembre de Toulouse Nouvelle Mode, il y a un site hein, www.toulousenouvellemode.fr, vous trouverez tout le programme.
Et sans oublier le marché de Noël artisanal et solidaire qui a lieu
vous
comme tous les
aussi.
Ans aux allées Jules Guesde. Et là aussi, venez donner du sens à vos cadeaux. On vous y attend.
Donc ça commence quand? C'est juste avant Noël
c'est tout,
ou un petit peu en amont
tout
quand
décembre.
Même tout le mois de décembre.
Ah bah jusqu'au 22.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'en avoir été l'invité, Nicole Miquel-Belot, et merci d'avoir fait pour nous ce panorama très complet de l'économie sociale et solidaire dans la métropole toulousaine. Je le redis, c'est un secteur qui se développe chaque année et qui est soutenu, entre autres, par Toulouse Métropole à travers divers parcours et dispositifs. Si vous êtes intéressé, je vous conseille de vous connecter au site web de Toulouse Métropole, www.metropole.toulouse.fr, rubrique institutions et territoires. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Coraline Camebrac. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite à tous un très bon week-end.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.